Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Les acrobates de l'audio.
Les acrobates de l'audio.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui à la Grainerie pour parler de la journée Les Tenaces. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bien sûr. Marion.
Donc bonjour, moi je m'appelle Marion Guyez. Donc je suis maîtresse de conférences en art du spectacle à l'Université de Grenoble, co-directrice de la compagnie d'Elle et co-fondatrice des Tenaces.
Alors moi je m'appelle Sophia Antoine. Je suis artiste et interprète au sein de la compagnie d'Elle et j'ai aussi aidé à co-fonder les Tenaces. Mais je suis une membre active et passionnée des Tenaces.
Est-ce que vous pourriez nous présenter la journée des Tenaces?
Du coup, les Tenaces, c'est un collectif de femmes de cirque, circassiennes et des femmes des arts de la rue, qui a été créé au sein de la compagnie d'Elle. Du coup, c'est vraiment un groupe qui est inscrit dans la compagnie d'Elle et qui est porté. La plupart des Tenaces, c'est d'abord des membres de la compagnie d'Elle, et c'est un cercle un peu plus élargi. Et nous, au sein de la compagnie d'Elle, donc on est une compagnie portée par des femmes, moi et Yael Antoine, et avec une équipe avec beaucoup d'interprètes femmes, dont Sophia. Et depuis longtemps, au sein de la compagnie, on se pose beaucoup de questions sur les questions de féministes, la place des femmes dans le cirque et comment développer nos carrières, avoir une place, tout ça. Et on constate des inégalités dans le cirque, on le constate, on le vit aussi, on l'a vécu nous en tant qu'artistes. Et c'est de là qu'est partie la volonté de se rassembler en fait, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal d'artistes qui se préoccupés aussi, qui se posaient beaucoup de questions sur tout ça aussi. Et du coup, on a décidé de se fédérer pour parler de tout ça ensemble et trouver des moyens de déjà pas être seul et trouver des moyens d'agir. Et cette démarche-là, elle s'est traduite d'abord par une présence sur les réseaux sociaux dont je pense Sophia pourra parler, et par la volonté de se rassembler ici à la Grainerie et d'organiser des journées comme ça, qu'on appelait au départ des journées de rassemblement des Tenaces, où le but était d'ouvrir et de partager les réflexions qu'on avait nous au sein du groupe des Tenaces et de la compagnie d'Elle à nos collègues artistes femmes des arts du cirque et de la rue. Chaque journée part des besoins des artistes, du coup de nos besoins à nous en tant qu'artistes, et des discussions qui apparaissent de journée en journée. Donc la première journée, c'était une journée assez généraliste. De cette journée-là, était où on avait déjà organisé des tables rondes et des ateliers. À chaque fois, c'est le format qu'on favorise. Et puis de cette première journée a émergé le thème de la suivante, puis de la suivante. Et cette question des violences sexistes et sexuelles est une question qui est revenue tout de suite dès la première journée de rassemblement. Il y a des femmes qui étaient là et qui sont venues nous raconter leurs histoires. Ça nous arrive aussi très régulièrement au quotidien, depuis qu'on est repérés en tant que Tenaces, de recevoir des témoignages de violences sexistes et sexuelles au sein des écoles de cirque, au sein des compagnies. Et au-delà du cirque aussi. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a voulu organiser cette journée sur cette thématique précisément.
Et ça fait combien de journées que vous organisez?
C'est la troisième ou la quatrième?
Ouais, troisième. D'accord. Parce que l'année dernière, ça a été annulé. La journée qui a lieu aujourd'hui, c'est un report de celle de l'année dernière.
Comment est-ce que vous avez choisi le nom Les Tenaces?
À la base, c'est lié à une pratique circassienne. C'est des femmes qui lâchent rien, qui tiennent sur la corde, qui tiennent sur un trapèze, qui tiennent sur leurs mains. Et donc, du coup, c'est de là qu'est venue l'idée des Tenaces. Une circassienne, elle lâche rien, elle tient, coûte que coûte.
Ouais, le cirque, c'est vraiment quelque chose qui demande de la ténacité et aussi se faire une place dans ce milieu pour travailler à différents postes. Ça demande beaucoup de ténacité, donc on s'est dit on va appeler ça les Tenaces parce qu'on est tenace parce que c'est le cœur de notre métier et en plus on veut se faire notre place dans ce métier.
Sophia, du coup je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans cette journée?
Alors mon rôle, ça a été d'une part de dialoguer autour de la création de cette journée, du contenu. Ensuite, il est logistique. Donc, il se conditionne à faire des courses, à mettre en place une signalétique, à communiquer sur la journée. Et puis, là, aujourd'hui, ça va être plutôt de l'encadrement. Je vais m'occuper de faire un Facebook Live pour que la journée soit retransmise sur la page des Tenaces. Donc, je vais animer un live. Et je fais aussi un atelier. Un atelier où je vais partager une pratique, alors qui n'est pas circassienne. Mais qui est quelque part une pratique d'autodéfense virtuelle, en fait, et qui invite les femmes et les personnes qui vont participer à mon atelier d'utiliser les réseaux sociaux pour faire levier, pour se faire entendre, pour se rendre visible. Et là, pour le coup, je vais surtout cibler sur les violences sexistes et sexuelles, puisque je vais, via ma pratique et via mon expérience, expliquer que parfois il suffit d'un tweet pour sauver une vie.
Du coup, vous venez de nous parler de cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport justement aux réseaux sociaux, vous plus personnellement ?
J'ai un rapport passionné aux réseaux sociaux. Contrairement aux personnes qui se positionnent contre, moi je suis dans une espèce de fascination pour tout ce langage, pour tous ces leviers, pour tous ces protocoles, pour toute cette inventivité qui se déploie sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a des dérives, et comme partout, hein, dans tous les milieux, il y a des dérives, et les réseaux sociaux, c'est un boulevard, évidemment. Mais j'en vois ici énormément de bienfaits. Je vois énormément de bienveillance, je vois énormément d'entraide, je vois énormément de sororité sur les réseaux sociaux. Et surtout, comme je vais le démontrer cet après-midi, je montre aussi que via les réseaux sociaux, on peut changer les récits, c'est-à-dire qu'on peut libérer des paroles, on peut créer des changements en profondeur au niveau de la société.
Et comment en vient-on à utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les violences faites aux femmes ?
Alors moi j'utilise les réseaux sociaux d'une part pour donner de la visibilité à la parole des femmes. J'utilise les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, interpeller. Et je me suis retrouvée à utiliser les réseaux sociaux par désespoir dans un premier temps. Parce que j'ai dû agir suite à des violences que subissait ma voisine de palier. La police est venue faire un constat, juste vérifier l'identité de la victime et repartir en lui souhaitant un bon week-end. Et donc, comme les cris et les coups reprenaient de plus belle et que la police a refusé de revenir une seconde fois, je me suis tournée sur les réseaux sociaux pour lancer un SOS. Et j'ai fait le buzz, c'est-à-dire que j'ai fait la une de tous les médias et j'ai rendu visibles les violences que subissait ma voisine, mais pas que. En réalité, en donnant un porte-voix à ce que subissait ma voisine, j'ai réveillé la douleur et les coups que subissaient d'autres femmes. Et d'autres femmes m'ont interpellée pour que je puisse les aider. Voilà. Et donc, je parle aussi dans mon atelier d'une femme que j'ai aidée, qui s'appelle Laura Rapp, pour qui j'ai tweeté et qui aujourd'hui a fait la une des médias et sur tous les plateaux télé pour parler des violences qu'elle a subies. Et grâce au tweet qu'on a lancé, en moins d'une semaine, son conjoint qui avait été remis en liberté a tout de suite été réincarcéré. Donc il a fallu d'un tweet, bien sûr, des millions de vues. Aujourd'hui, cette femme, elle a entendu, elle a écouté, elle a écrit un livre. Il y a une fiction, un documentaire qui vont sortir sur son histoire. Donc des fois, quelques mots, ça résonne.
Et est-ce que vous savez pourquoi Twitter est si efficace pour ces pratiques-là ?
Parce que c'est comme un téléphone en lien direct avec la Russie ou la Maison Blanche. C'est-à-dire que via Twitter, je peux tout de suite interpeller un procureur, un juge. Et en fait, comme j'ai une communauté qui me suit et qui me relaie, ils ont très vite accès à mes tweets et à mon insurrection. Donc, je peux interpeller des personnes que je ne pourrais pas associer à mon combat ou toucher autrement que par le biais de Twitter.
Du coup, pour en revenir un petit peu au cirque, quelle est la place de la femme dans le milieu du cirque ? Autant d'un accès à l'emploi des femmes ou s'il y a une différence de représentation des femmes sur la scène.
Il y a plein de femmes artistes de cirque. C'est un milieu artistique mixte. Il y a vraiment autant, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Il y a plein de disciplines, une variété. Enfin, je suis vraiment convaincue que le cirque est un art où chacune peut trouver sa place, son agrès, ses objets, sa singularité artistique. Du clown à l'acrobatie, voilà. Enfin, il y a vraiment des tas d'approches, et il y a vraiment des cirques, donc des femmes et qui font des cirques. Après, voilà, quand on commence à prendre les chiffres, et les derniers frais que j'ai, c'est ceux qui ont été, que j'ai pas là avec moi, mais que je peux vous donner si ça vous intéresse, c'est ceux qui ont été faits par HF Auvergne-Rhône-Alpes, qui montrent notamment comment il y a un écart qui se creuse dans le nombre de femmes du secteur amateur au poste à responsabilité. Alors, c'est une étude qui est sur les arts en général et pas spécifiquement sur le cirque. Mais c'est vrai qu'en cirque, on retrouve ces chiffres-là où il y a énormément de femmes dans les milieux en activité amateur, loisirs. Et puis dans les écoles de cirque, c'est globalement assez mixte, même si dans certaines promos, ça peut être très inégal. Et après, par contre, quand on commence à regarder, et après ça change un peu parce que, voilà, ces dernières années, mais quand on commence à regarder les distributions des spectacles, notamment dans les festivals les plus reconnus, on voit de moins en moins de femmes. Et les Tenaces, on a beaucoup fait ça aussi au départ, tout simplement compter le nombre d'artistes interprètes dans les festivals. Et on prenait les distributions et on comptait le nombre d'hommes, de femmes. Et bon, alors là, je parle des premiers comptages qu'on a fait. Ça donnait des festivals où on pouvait avoir sur une cinquantaine d'artistes au plateau. On avait 10 femmes et 40 hommes, quoi. Voilà, ce genre de chiffres-là, ça change parce qu'il y a une impulsion ministérielle qui pousse vers l'égalité et une parité dans ces milieux-là. Donc, et puis les directeurs, directrices de festivals font plus attention à ça, mais voilà, il faut rester vigilant sur ça. Et par contre, donc sur les interprètes, ça évolue un peu. Mais c'est vrai que sur les directions de compagnie, ça reste aussi, voilà, plus on monte dans les postes à responsabilité, la hauteur des subventions, ça reste très, très inégal. Et c'est tout, sur tous ces aspects-là qu'il y a des efforts à faire. Du coup, la place des femmes dans le cirque, elle existe, mais on a besoin de plus de reconnaissance et de nous faire confiance, quoi, dans ces métiers-là. Après, c'est vrai que si on passe aussi sur la question des représentations, il y a aussi des... Donc, quelle image des femmes on donne sur les scènes circassiennes? Ça, c'est à double tranchant parce que, encore une fois, pour moi, le cirque, c'est un espace qui a une capacité d'émancipation immense, où on peut aller chercher des représentations qui vont bousculer un peu les stéréotypes avec des femmes très musclées, des représentations de plein de modèles de femmes et de féminité. Et en même temps, on peut tout aussi bien retomber dans des stéréotypes les plus sexistes et violents, quoi. Il y a les deux aspects et il faut qu'on arrive à donner plus de place aux représentations. Mais du coup, ça, pour comprendre ça, c'est aussi comprendre ces représentations et qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi il y a des habitudes de costumes? Pourquoi il y a des habitudes d'avoir des distributions plutôt masculine avec une seule femme, et des critères de qu'est-ce qu'est le cirque tout simplement aussi, et comment on choisit avec qui on travaille, enfin voilà. Et c'est un peu toutes ces questions-là qu'on se pose au sein des Tenaces, avec qui on choisit, et du coup nous aussi de nous mettre en... de nous rassembler pour travailler ensemble. Je sais pas si ça répond à tes questions.
Et pourquoi ces questions, elles sont en ce moment sur le devant de la scène?
Alors, je pense pas que... Je me permets, hein, Marion, mais je pense pas qu'elles sont maintenant sur le devant de la scène quand même. Il y a eu le rapport Rennes-Pratt qui s'intitulait tout bêtement « Où sont les femmes ?». Voilà, donc c'était un constat terrible en disant que les femmes dans le secteur artistique étaient invisibles, on ne les voyait pas.
Qui date d'il y a plus de 10 ans.
Ouais, il y a plus de 10 ans, ouais. Et puis après, il y a quand même, il y a un peu plus de 3 ans, il y a le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui est sorti et qui faisait un constat tout aussi alarmant. Donc en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est sur le devant de la scène, en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est un constat, c'est une réalité. Qu'on en prenne conscience ou pas, qu'on ait une volonté de changer les choses ou pas, en tout cas, c'est là, c'est prégnant. Aujourd'hui, dans les politiques publiques, grâce au mouvement MeToo, il y a une véritable volonté en façade, je dirais, de s'intéresser à des problématiques féministes et d'égalité femmes-hommes. Ça reste quand même clientéliste et politique, bien souvent. Mais en tout cas, il y a quand même une logique de quota qui se met en place. Il y a quand même ces problématiques-là qui sont posées, qui sont sur le devant de la scène, qui sont questionnées par les médias, dont s'approprient aussi les politiques, puisque vous avez vu aux dernières municipales, tous les politiques s'afficher sur une posture contre les violences faites aux femmes. Les féministes font tellement de bruit, et puis avec le mouvement MeToo, il y a quelque chose qui a changé, en fait, dans la prise en compte d'une certaine réalité.
Moi, je veux bien compléter ce que tu dis, vraiment au sein du cirque aussi. Mmh. Et bon, après, c'est pas juste le cirque, et je pense que c'est aussi lié à la période qu'on traverse, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les artistes femmes, on a beaucoup plus conscience des freins structurels de nos carrières et tout ça. Du coup, ce qui fait qu'on va plus en parler aussi, c'est pas juste un constat au niveau des institutions et tout ça, c'est aussi chacune... en tant que femme et artiste, on a une meilleure conscience de ça, ce qui fait que ça prend plus de place, ça devient, c'est quelque chose dont on parle plus facilement, où il y a plus de reconnaissance de ça qu'il y a peut-être quelques années où quand moi je suis sortie d'école, c'est des choses, je sentais les freins mais je les comprenais pas, quoi. Mmh. Et alors que j'ai l'impression que les artistes qui sortent aujourd'hui et les jeunes générations, enfin les générations de jeunes étudiants aujourd'hui, ils ont sont armés des outils de féministes, des questions comment c'est une structure qui freine et pas juste voilà, enfin j'ai l'impression que ça a beaucoup changé, ce qui fait qu'on a une capacité de prendre en main ces aspects-là de manière beaucoup plus large plus nombreuses, quoi. Du coup, ça se voit plus.
Complètement. Et moi, j'ai envie encore de revenir sur les réseaux sociaux qui ont une large part de démocratisation d'une parole féministe, d'une parole qui se lève contre les discriminations et le sexisme. Ça contribue énormément à former les nouvelles générations. Enfin, moi, je me rappelle, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, Marion, que quand au début, on s'est affiché tenace, on avait un petit peu peur d'être stigmatisé, d'être pointé du doigt, d'être précarisé, d'être un peu...
Une peur d'un backlash.
Oui, complètement, le backlash, complètement. J'ai senti vraiment, personnellement, même moi, dans mon métier, je ne parlais pas de mon activisme, hein, je le silenciais complètement et je verrouillais bien tout, je faisais très, très attention, parce que j'avais vraiment peur même de perdre des boulots, des emplois. Vous savez qu'on est précaires, hein, donc c'est compliqué, donc on protégeait énormément. Après MeToo, il y a un truc qui s'est passé quand même, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, je vois la jeune génération, enfin, vous êtes toutes féministes. Enfin, pour vous, c'est même de fait, c'est évident. Mais pour nous, c'était compliqué, mais vraiment, de l'afficher. Ouais. Moi, j'ai été à des soirées personnelles où je me suis fait cracher au visage parce que j'étais activiste. À l'époque, être activiste féminine, il y a 9 ans, c'était se clouer au pilori, vraiment. C'était extrêmement dangereux. J'avais des gens qui me crachaient au visage, vraiment. C'est pas tout aussi simple, mais c'est différent. Disons que j'ai d'autres rapports avec les gens, quoi. Je suis plus problématique dans une soirée, dans une émission, dans un spectacle. Je suis plus problématique parce que j'ai cette posture.
Mais c'est vrai que dans le milieu artistique, ça a vraiment changé par le biais de directives ministérielles où maintenant les DRAC sont obligés de rendre des comptes, les structures sont obligées de rendre des comptes sur ces questions-là, ce qui fait que ces problématiques-là deviennent légitimes et nous, tenaces, on devient légitimes par ce biais-là aussi, même si voilà, ça continue à frotter à plein d'endroits et c'est partie du jeu aussi. Mais voilà, notre posture devient, trouve une forme de légitimité là-dedans et presque... En tout cas, dans le cirque, j'ai l'impression qu'on joue un rôle qui peut être pris en charge que par nous, en fait, aussi.
Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire, alors? Quelles sont vos différentes manières d'agir pour continuer à avancer?
Mais tout. Au sein tout des tenaces, ça reste balbutiant. On a quoi? Une journée de rassemblement par an. Quand il y a les festivals, éventuellement, on intervient sur des temps de 2 heures, ça ne suffit pas. Les budgets alloués pour lutter contre les discriminations et le sexisme sont moindres. Il y a énormément de bénévolat. Évidemment, en fait, que c'est encore quand je parle de féminisme de façade ou de féminisme washing, je sais ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on continue à être la caution d'un festival. Au lieu d'avoir une programmation paritaire, égalitaire, on préfère faire un temps fort sur les femmes. Non. En fait, on n'a pas à cautionner une démarche comme ça
pour invalider
le fait que le reste de l'année, on ne donne pas des subsides ou des financements ou une place à des compagnies qui sont sur d'autres problématiques et qui sont féministes ou de femmes ou bref. Donc voilà, en fait, il y a tout à faire dans les écoles. On l'a bien vu avec Sciences Po. Dans les écoles, mais dans les écoles d'art, c'est tout aussi pareil. Ou avec le cours Florent, là, dernièrement, les femmes continuent à subir de la discrimination, de la grossophobie, subissent des injonctions à longueur de plateau ou de piste. C'est pas tenable. C'est pas parce que la parole se libère que ça a avancé. Mmh. C'est le début. On est au tout début. Tant qu'on n'obtiendra pas... aujourd'hui, les femmes, elles représentent 52% de la population. Donc, tant qu'on n'obtiendra pas 52% des subsides, 52% de représentation sur les plateaux, moi, je dis qu'il y a encore beaucoup de travail.
Oui, du coup, moi, je reviendrai sur des choses peut-être un peu plus pragmatiques. Mais en tout cas, dans la création, nous, ce qu'on voit et ce qu'on défend aussi beaucoup, c'est des subventions pour les femmes créatrices. Parce que ça aussi, c'est quelque chose où... Dans les questions de parité, mettons qu'il y ait une attribution à autant de femmes que d'hommes. Après, la question, c'est combien est attribué aux femmes et aux hommes. Et on voit très bien que, en tout cas, les chiffres sont assez scandaleux de voir que pour un projet équivalent, une directrice artistique femme va obtenir une subvention nettement moindre qu'un homme directeur artistique qui va avoir vraiment un projet équivalent. Mais que c'est aussi dans la posture de départ. C'est que, il y a vraiment plein de leviers à déconstruire. Et du coup, c'est ça, c'est donner des moyens de réaliser des œuvres ambitieuses, quoi, aux femmes. Et puis dans les écoles, ça, c'est un peu le sujet dont on va parler tout à l'heure et cet après-midi, de, enfin dans cette journée d'aujourd'hui, de comment on repense la pédagogie, le rapport aux autres, le rapport au corps, pour finalement pas être juste contre, mais prévenir, anticiper aussi les violences, les inégalités, et transformer les pratiques, du coup. Et ça va se faire petit à petit. Et ça commence par des toutes petites choses aussi, quoi, du coup, de transformation. Mais du coup, voilà, faire ce qu'on peut à notre échelle, du plus petit au plus grand, quand on fait des tweets.
Ouais, voilà, non, mais par exemple, ne serait-ce que sur le cas de femmes enceintes, donc de grossesse, tout de suite, la femme est déqualifiée, disqualifiée. Elle sort du réseau, elle sort de son environnement artistique, elle vaut presque plus rien, ou tant qu'elle a ses enfants, bon, ça devient compliqué. Mais je parle aussi des femmes vieillissantes. Par exemple, il y a une association qui s'est lancée sur des femmes comédiennes qui dénoncent que le tunnel des 50, c'est-à-dire qu'à 50 ans, les femmes disparaissent.
Et en cirque, ça commence beaucoup plus tôt.
Beaucoup plus tôt, ouais. Donc on est sur des critères quand même. Alors qu'un homme, en vieillissant, il devient viril, mûr, sexy, séduisant, etc. J'en passe. Bon, voilà. Donc en fait, c'est changer aussi les rôles des femmes, les représentations. Voilà, d'essayer de travailler avec d'autres corps, avec d'autres envies, d'autres... Les thématiques abordées aussi, c'est passionnant. Il y a d'autres façons de dire les choses, il y a d'autres façons de travailler. Par exemple, au sein de la compagnie d'elle, ce qui est formidable avec Marion et Yaël, c'est qu'elle repense même les façons de travailler en termes de résidence de création, en termes d'équipe. Il y a vraiment une envie, par exemple, dans une compagnie féministe, il y a un besoin de chercher une horizontalité, de chercher le sexisme, d'aller frotter, d'aller exhumer les pans de sexisme ordinaire qui nous habitent tous et toutes. Enfin voilà, on est vraiment sur des choses, et c'est aussi une remise en question, et c'est du temps. C'est du temps, mais c'est du temps qui est constructif et pour moi qui fait partie en fait d'une plus-value. Et ça, c'est contrairement dans les institutions, c'est pas forcément valorisé. Là, c'est pas des choses en fait qu'on met en place de façon systématique ou qu'on valorise ou sur lesquelles les structures ou les institutionnels aiment braquer des coups de projecteur. C'est bien dommage.
Ouais, du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est inventer d'autres manières de faire et d'être vraiment dans la proposition. C'est vrai que ça fait longtemps, du coup, qu'on constate tout ça, et ça fait plusieurs années aussi que nous, on s'est dit, bon, ça suffit, les constats, comment on fait autrement? Et du coup, il y a dans les ateliers qui sont proposés aujourd'hui, et dans la réflexion, et même dans ce qu'on essaye de faire en création au sein de la compagnie d'elle, d'aller chercher de comment... on montre autrement les femmes, comment on repense le cirque, comment on repense la création, comment on repense les rapports de hiérarchique au sein de la compagnie, et y compris, voilà, comment on fait autrement. Et c'est ça que je trouve le plus passionnant aujourd'hui, mais qui demande un effort d'imagination colossal, parce qu'on est tellement construite par cette culture où le sexisme est pleinement intégré, que ça demande un travail de tous les jours et une attention quotidienne pour pas retomber dans les travers, et on y retombe même, forcément, quoi.
Mais c'est pour ça qu'on est tenace, parce qu'on n'est pas assise les bras ballants. Peut-être qu'au début on a compté, peut-être qu'au début on a eu besoin de faire des constats.
On continue à compter, hein, ceci dit, on continue à faire tout ça. Après, c'est
mais là on agit, on essaie de trouver des ressorts, on essaie de faire levier, on intervient à d'autres endroits, on place la sororité au centre, l'empowerment au centre. Voilà, on essaie vraiment de se relier les unes aux autres, et je trouve que c'est un beau pied de nez au viriarcat.
Super.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose?
Non.
C'est bon. Non, merci.
Merci beaucoup. C'était génial. Hein. Merci beaucoup.
Merci à vous.